Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi avec Fred Weiss, avec Christophe Cessieux, David Douillet et Fred Le Canu. Tiens, pendant la pause là, on redemandait à David des bonnes recettes. On rappelle qu'il a sorti un livre avec sa compagne.
La page 31, c'est la page 31.
Tu lis la page, tu prends 6 kilos.
Attends, tu nous redonnes la bonne recette que tu nous as donnée là pour nos auditeurs avec des œufs là.
Ah mais c'est très simple, des pommes de terre, des œufs durs, vous les mélangez. Bon, ça c'est tout ça, c'est très simple. Mais vous les nappez de crème fraîche, entièrement nappez de crème fraîche. Vous les placez au four à 180 pendant une petite dizaine de minutes. Puis ensuite vous les laissez à 80 tranquillement. C'est divin, c'est à manger sur la tête d'un pouilleux. Voilà, comme on dit chez moi.
Et bien, ça donne envie. Et puis, je te dis qu'il faut 2 mois pour passer la page 32.
Non, mais c'est terrible. C'est une tuerie.
On sent une certaine émotion.
Ah, mais oui, mais bien sûr. Parce que je vis le truc. C'est la cuisine de mon enfance, de ma grand-mère, de ma Normandie. Donc, voilà. Mais la crème fraîche épaisse, s'il vous plaît.
Ah, mais la vraie crème fraîche épaisse de Normandie, quoi.
Voilà, la double, exactement. La... Ouais. La double, la triple, la quadruple. Tu penses qu'il y a plus gras et tu mets dedans, tu te trompes pas.
Voilà. David qui est sur un objectif de perdre 30 kilos. Hein.
Oui,
je le rappelle quand même.
On fait comme on peut. Hein.
Expliquer.
Je démarre de haut.
Ouais, bah bon, après, moi, c'est les fêtes de Noël. On peut s'en.
Ouais, tu peux prendre un peu. Tu peux reprendre 30, comme ça, après, tu auras.
Un foie gras nappé à la crème fraîche.
Ouais.
Un foie gras
nappé
à la crème fraîche.
C'est page 32. Page 32, huile d'olive. Non, mais il y a des femmes qui sont italiennes. Sur la page 32, t'as un foie gras nappé à la crème fraîche, huile d'olive de son étage.
Non, mais non. Mais mon épouse a fait des recettes italiennes, puisqu'elle est italienne d'origine. Elle est végétarienne aussi. Donc, il y a des recettes hyper healthy, hyper light, hyper bonne, surtout. Mmh. Parce que pour nourrir un gros,
ce qui est bien,
tu dois
c'est
perdre
ça,
du poids.
Ce soit bon. Top, ce livre, parce que t'as des recettes pour les filles et pour les garçons.
Voilà.
Donc, tout le monde y trouve son
bien.
Mais pour ça, ma femme est comme la tienne, elle est végétarienne, elle mange que des trucs sains. Moi, je suis comme toi.
Pourquoi il faudrait que ce soit genré? Pourquoi il faudrait que ce soit genré? Je peux manger
l'avocat
si tu as. Écoutez, la première heure des grandes gueules du sport en podcast, si vous voulez, déjà sur toutes les plateformes. Dans un instant, on va parler F1 avec la punchline de Piastri qui ne pliera pas pour aider son coéquipier Norris à être champion du monde. Avant-dernier week-end de Grand Prix au Qatar, suspense total dans la course au titre. Fin d'émission, je vous rappelle, Jojo du sport avec vos GG. Remportez votre séjour pour 2 personnes à l'hôtel Talacap de l'île de Ré. Le séjour comprend nuitée, petit déjeuner, déjeuner à la table de Grignon, 3 soins. Toilas, Talasso, normalement vous revenez de là, vous êtes nickel.
Si tu rentres dans le truc, parce que si Fred Weiss par exemple gagne et qu'il part avec les copains là-bas, je peux dire qu'ils vont faire une drôle de tête. Hein, parce que petit déjeuner pour Fred Weiss, massage, rentrer dans la baignoire à bulle et tout.
Mais, ce sera pire que
l'investissement pour l'hôtel.
Pire qu'un troupeau de sangliers qui débarque dans un hôtel.
Elle transpire à l'hôtel. Fred gagne pas le truc.
Je pense que le terme.
Je suis bien placé pour gagner d'ailleurs, attention.
Je pense que le terme bienveillance entre vous est le bon terme pour ce matin, pour remporter votre séjour. Talacap à l'île de Ré, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16 sport au 7-32-16. Je vous rappelle qu'il n'y a pas un voyage avec une GG compris, évidemment. D'abord donc, l'OM et le PSG monopolisent la une du foot français depuis le début de la saison.
RMC, le ring des GG.
La but de l'Olympique de Marseille. C'est terminé. Marseille l'a fait, a battu Paris en championnat.
La but Parisien, Gonzalo Ramos, servi par Hakimi.
Pacquiao qui va frapper. Oh, Pacquiao! 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Victoire de l'OM pour ce retour de la Ligue des Champions au Vélodrome.
Oh, le but! Le ballon d'or signe également la rencontre de son but. Et c'est terminé ce match de dingue qui se termine donc sur le score de 7-2. Pour le PSG face au Bayer Leverkusen. Le deuxième but marseillais. Le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.
Du Vitinha. Oh mais c'est fou. Vitinha le sauveur. Quel joueur. Le maestro Vitinha montre la voie au Paris Saint-Germain.
On nous accuse parfois de trop parler d'eux. Alors parfois c'est vrai que c'est vrai. Mais oui, mais voilà. Les deux clubs les plus populaires du foot français font tout pour qu'on parle d'eux depuis le début de la saison. Paris est leader de Ligue 1 ce matin avec deux petits points d'avance sur l'OM à l'aube de cette 14e journée. Donc Paris se déplace à Monaco à 17h. Marseille reçoit Toulouse à 21h05. Deux matchs à suivre sur RMC. Les deux ont gagné leur match avec caractère cette semaine en Ligue des Champions. Une équipe survit aux blessés pour rester en haut de l'affiche. L'autre a tout chamboulé, mais parvient à tenir la distance pour l'instant. Les GG, je vous pose cette question à la fois simple et compliquée aussi. Tiens, jouez, vous qui écoutez cette émission, peut-être en famille, là. Qui réussit le mieux sa saison, en fait ? Le PSG ou l'OM ? Ça pourrait être une question pourrie du Moscato Show, on l'assume. J'ai Fred Le Canu et Christophe Cessieux, et également David Douillet qui me disent le PSG. Fred Weiss, seul contre tous, comme d'habitude, c'est une façon de vivre, dit l'OM. Vous êtes 59% pour l'instant sur le compte X des grandes gueules du sport à dire Paris Saint-Germain. Vous êtes d'accord pour l'instant pour dire que c'est plutôt le PSG. Supporters parisiens et marseillais, on vous attend.
Moi, je suis limite.
Hein.
Moi aussi,
je suis limite.
Moi, je veux bien passer dans le compte.
J'ai réussi déjà à les convaincre, j'ai pas dit un mot.
Non, parce que je suis vraiment sur le fil du rasoir.
Après, c'est vrai que Fred est très charismatique. Donc,
on va
tenir une position.
Non, mais moi, si Fred avait dit PSG, je pense que je serais allé sur Marseille.
Ouais, moi aussi.
Mais comme j'aime exactement. Pas être d'accord avec lui, en fait, je
non, mais moi, il y a un argument qui me chiffonne. J'ai réfléchi cette nuit, c'est marrant. Hein.
Ah oui,
tu vois, le
c'est
truc
rare.
Est débile.
T'as
ouais.
Bah non,
qui est Célie Serrard.
Alors, c'est pas
toi.
Moi,
non, mais
je vais
pas de violence.
C'est toi, Célie
Serrard. Attention, c'est pas de gros mots.
C'est pas parce que t'es plus petit que tu vas prendre nous.
David vient d'envoyer une gauche sur l'épaule de Fred Le Canu.
Plus faible qu'il y a 20 ans. Je sais pas s'il a changé de régime alimentaire.
Non, je suis moins gauche.
Change de quelque chose. Faible, tu es faible.
En tout cas.
Pourquoi t'es partagé finalement, David ?
Ben parce que j'ai relu un truc hier, je me suis dit, quand je regarde, quand on compare le budget de l'OM et le budget du PSG, c'est x3 le coefficient.
Ouais, bien sûr.
x3 ! Donc forcément, qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, je trouve que l'OM fait, avec ce qu'ils ont, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ça que je dis. Bon, même si l'entraîneur du PSG fait des miracles avec un groupe de très talentueux, etc. Mais j'arrive pas à m'endormir en me disant, mais quand t'as autant d'argent, mais tu peux faire que ça. Normalement, ça ne peut que marcher. Mmh. Ce qui est pas aussi évident avec l'OM. Donc je suis en train de basculer du côté de Fred.
Il était quelle heure cette nuit quand tu t'es dit mais finalement l'OM ?
Il était minuit. Tu vois sur le changement.
Les GG ont une drôle de vie quoi.
Ouais, oui.
Fred Weiss, toi tu dis l'OM.
Alors déjà j'ai rien compris à ce qu'elle a expliqué. Donc
c'est pas grave.
Je n'arrive pas à comprendre s'il est avec moi ou s'il est pris contre moi. Je suis en train de pencher vers toi.
Tu m'as dit.
C'est compliqué pour moi.
Il est d'accord avec toi.
Non mais c'est physique.
C'est ça les phéromones.
Les grosses planètes attire les plus petites.
Mais
voilà, je suis la lune de Fred Weiss.
Cette phrase est très bizarre. Et je ne sais pas comment je vais le prendre.
Faites de cette phrase ce que vous voulez.
Donc en fait, moi je parlerai en termes d'objectifs. Alors, en valeur absolue, le PSG fait évidemment une meilleure saison. Et je rejoins un petit peu David Douillet. Quand tu as ces moyens-là, c'est logique que tu réussisses une meilleure saison parce que tes objectifs sont plus élevés et donc tu fais tes objectifs. Sauf que du côté de Marseille, les objectifs sont plus bas. C'est quoi l'objectif pour Marseille ? C'était d'être dans le top 3, pérenniser le fait d'être en Ligue des Champions. Ben pour l'instant, ils sont en train d'accomplir leurs objectifs. Et donc, à partir de là, pour moi, c'est l'équipe qui s'en sort le mieux et qui est au-dessus par rapport à ça uniquement. Encore une fois, je ne parle pas de valeur absolue, je parle d'objectifs. Quand tu as des objectifs ultra élevés comme ceux du PSG, quand c'est quasiment une normalité pour toi d'être premier de la Ligue 1, etc., ben forcément, c'est plus difficile. Ouais, en plus, la question que je me pose, c'est.
Il y a longtemps que je veux te dire ça.
Quand tu respires.
Non, mais.
Reprends
un coup et repars.
Une capacité pulmonaire de 702
millions.
Incroyable. 2-3 minutes. Vous allez me laisser parler ou quoi?
C'est le Jacques Maillot pour entrer dans le souffle.
Attention, Fred.
Moins 107 mètres, Jacques Maillot.
Donc je me dis, en parlant voilà. plus calmement et plus posément, que du côté de l'OM, on a plus de mérite, entre guillemets, à réussir cette saison. Parce que c'est moins attendu. Et effectivement, quand on a, juste pour se rappeler, quand Rabiot, il y a eu le problème, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit, c'est fini pour l'OM, ça va commencer les cascades de problèmes. Et finalement, ils sont dans leur objectif. Et à partir de là, pour moi, c'est une saison réussie.
T'as trois niveaux pour faire simple. T'as la base, tu vois, tu produis, tu fais ton truc, machin, ok, tu fais ta performance, voilà. Ensuite, t'as le deuxième niveau, c'est vraiment quand t'as individualisé les choses, t'es dans l'excellence. C'est le cas de l'OM.
Mais en fait, c'est les judokas, on comprend rien quand ils parlent, en fait. En français, ils ont eu deux.
Écoute-moi, parce que ça va être très plus simple pour toi après.
C'est que c'est compliqué, en fait.
En fait, surtout pour toi.
À expliquer.
Aubameyang, il est à son meilleur niveau, c'est vraiment ça la grande performance, c'est ce qui fait rêver le truc sur l'OM, c'est extraordinaire. Ils sont à un très grand niveau d'excellence, ils sont là où on les attend, ils sont dauphins du Paris Saint-Germain avec une toute petite, un tout petit delta, c'est ce qu'on avait dit dès le départ de la saison.
Mais ils ont battu le PSG aussi.
On les imaginait pas à ce niveau-là non plus, aussi proche.
Le troisième niveau, c'est celui de la créativité. Quand t'as les deux premiers, quand tu sais ce que c'est que l'excellence, quand tu maîtrises tes bases, t'es dans la créativité. C'est ce que fait le Paris Saint-Germain. On parle même plus d'attaquant, avec Barcola ou quoi. On parle même plus de, tu vois, d'individualité. On parle de quoi, tout simplement? On parle de bloc offensif, de bloc défensif. Le mec, c'est un magicien. L'entraîneur. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des milieux de terrain qui complètent le truc. C'est-à-dire qu'on est au-delà d'un truc que l'Olympique de Marseille est en train de faire, c'est-à-dire quelque chose d'excellent. Eux, ils sont en train de montrer dans la performance quelque chose qui n'était pas prévu.
C'est Luis Enrique qui te marque, en fait.
Mais bien sûr, parce que, regarde, rappelle-toi la saison dernière, les mecs, ils ont gagné la Coupe
d'Europe. Endormir les débatteurs, ça compte dans le résultat final, parce que là, ils ont endormi complètement. Non, on comprend même plus de quoi on parle depuis le départ. Il y a une première strate, une deuxième strate, une troisième strate. Il y a combien de strates, Fred?
Il y en a trois. Ils sont dans la créativité, ils sont dans l'excellence, avec des gens qui sont blessés.
Avec 900 millions d'euros, tu peux être créatif.
Eh ben, je ne crois pas.
Ah bah,
je ne crois pas parce que tout le monde est à son
niveau. David Douillet les a, je peux te dire qu'il est ultra créatif, surtout dans les recettes de cuisine.
T'as pas Hakimi, t'en as deux qui sont blessés. Attends, le mec, il est monstrueux. Ils ont une saison de dingue. Il arrive encore à trouver des solutions.
Mais justement, la solution, c'est de l'argent et de l'arrière-banc.
Mais c'est pas l'histoire d'argent, David. Mais si. C'est pas parce qu'on te payait que tu faisais bien au Chigari.
Bien sûr que je le faisais bien.
Bon, arrête. Toi, c'est un mec généreux, tu mets ça sur l'argent, c'est que t'as pas d'argument
technique. Non. Je compare un pauvre d'un riche. Voilà, 850 à 910 millions d'euros de budget pour le PSG. 260. À 295 millions d'euros.
Forcément, ça change le regard.
Ça change tout.
Mais encore une fois, c'est les objectifs initiaux. Et les objectifs initiaux sont plus bas pour l'OM. Donc forcément, c'est plus facile de les réaliser.
J'ai jamais vu Christophe Cessieux aussi.
Non, mais moi, je suis au spectacle ce matin. Je me suis mis au balcon et j'observe les.
C'est que t'as peur d'aller de rentrer dans
les dinosaures. Les dinosaures s'affronter. Pour l'instant, ils sont plutôt sympas, mais je pense qu'il faut leur filer à bouffer. Autrement, à un moment, ça peut mal se.
En fait, le mec se réveille doucement, c'est tout.
Je suis complètement réveillé, mais franchement, c'est difficile d'en placer une.
Toi, tu dis
surtout que j'ai peur d'en prendre une.
Toi, tu dis PSG, Christophe.
Moi, ouais, mais pourquoi? C'est pareil, c'est à touche-touche. Hein, franchement, je pense que les deux clubs sont vraiment hyper performants et dans leurs objectifs depuis le début de la saison. Mais moi, ce qui me bluffe avec le PSG, je pense, c'est franchement, on a fait des débats en début de saison sur l'avalanche de blessures, notamment tous les attaquants, les Dembélé, les Doué. Il y a quand même une infirmerie particulièrement remplie pendant plusieurs semaines. Et malgré ce, eh bien, le PSG a réussi à quasiment tous ses objectifs. Sauf un, et c'est ça qui peut faire la différence, c'est ce match perdu face à l'OM. Il n'avait pas perdu face à l'OM en championnat depuis des années. Et là, c'est peut-être qui fait la différence et ce qui peut-être amener certains à dire que l'OM a fait une encore plus belle performance.
Mais autrement,
tu es deuxième de Ligue des Champions, alors que l'année dernière, à la même époque, tu étais très loin.
Tu t'es battu jusqu'à la dernière journée.
Se bagarrer jusqu'à la fin.
Tu es leader du championnat.
Tu es toujours leader du championnat, même si tu ne produis pas le même jeu, mais tu es quand même leader devant l'OM avec 2 points. T'as un de tes mecs qui est ballon d'or. On ne parle que des récompenses des joueurs du PSG. Franchement, c'est difficile de leur demander de faire plus, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus? Écraser encore un peu plus le championnat?
Le problème, c'est qu'ils ont banalisé ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est un vrai problème par rapport à ça. C'est quand tu banalises le fait d'être exceptionnel, bah forcément, tu parles d'autres. Mais juste un des objectifs de Marseille, c'était quoi? Rentrer dans la cour des grands et se taper des grands temps en temps. Bon, bah, tant que PSG, bah, ça leur permet de rentrer dans cette cour des grands un petit peu aussi.
Après, David, tu me disais, en préparant l'émission, que tu avais été impacté par la capacité de réaction cette semaine du PSG en Ligue des Champions.
J'ai vu le début du match où ils étaient menés.
Contre Tottenham.
Contre Tottenham. Ensuite, j'ai été appelé pour des affaires familiales internes. Donc, j'ai été coupé.
Il allait faire à manger, quoi.
Ouais, c'était à peu près ça, voilà.
Et il s'est endormi après la match 32.
Et là, j'ai vu, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de baguette magique, ils avaient 3 buts vaincus d'avance. Je me dis waouh, d'accord, ok, le PSG c'est sérieux quoi. Voilà, ils tiennent leur rang, ils ont du mental, le mental est là, l'entraîneur est là.
Ouais, ils ont, banalisé en fait ce genre
oui,
de
ouais, et c'est malheureux parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils proposent, mais c'est vrai qu'on est habitué.
Vous savez ce qu'on va faire?
Ils ont banalisé comme quand c'était la crise. Enfin, est-ce qu'on se rend compte que le banc il est complètement abîmé?
Ouais, bien sûr, mais il leur manquait tous les cadres.
Les meilleurs sont pas là.
Enfin, une bataille des supporters, tiens, ça va être intéressant.
Le moins bon du PSG,
supporters marseillais et supporters parisiens. On accueille Philippe, supporter marseillais au 32-16. Salut Philippe.
Ouais, salut l'équipe.
Salut Philippe.
Ça va, Philippe. Tu penses que c'est l'OM qui réussit le mieux son début de saison, toi, j'imagine?
Ouais, bien sûr.
Pourquoi?
Bien sûr.
Bah, ça s'entend, l'accent.
Dis-nous pourquoi.
L'OM a plus de mérite parce que pour moi, ils ont déjà modifié l'effectif beaucoup plus que celui de Paris par rapport à l'année dernière. Que l'année dernière, ils jouaient qu'une compétition une fois par semaine et que là, ils sont capables d'être à la fois deuxième en championnat, d'être dans la course de la qualif en Ligue des Champions, à jouer tous les trois jours. Et comme Paris, on a aussi des blessés importants. Aguerre qui est blessé, Medina qui est blessé.
Oui, bien sûr. T'as raison de le rappeler.
Donc pour moi, Marseille a beaucoup plus de mérite que Paris qui fait aussi un truc énorme, hein, faut le dire, hein, que vu sa place en Ligue des Champions, en championnat, bon, il y a pas débat. De toute façon, ils sont comme vous l'avez dit avec le budget, ils sont hors catégorie. Et après, ouais, en Ligue des Champions, ils font le job. Donc,
ils font le job,
en tout cas, ouais. Marseille a, à mon avis, plus de mérite cette année.
Marseille a plus de mérite, selon toi, Philippe. J'ai un message de Martial sur WhatsApp 06 12 424 424. L'argent ne fait pas obligatoirement gagner. Regardez,
c'est
Liverpool a investi 500 millions et pourtant ils sont en grande difficulté. Cyril, supporter parisien, pourquoi Paris réussit un meilleur début de saison selon toi? Salut Cyril.
Bonjour l'équipe. Ça me rassure, je viens de réécouter la question puisque en fait vous êtes tous en train de me parler, inclus Philippe, supporter de l'OM, de mérite. Mais en fait, qui a réussi? On n'est pas en train de parler de mérite. Alors si vous voulez en parler un petit peu, on peut en parler. Accessoirement, on est allé battre le Barça avec les moins de 15 du PSG. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Il manquait du monde à Barcelone aussi. Hein.
Pardon?
Il manquait du monde à Barcelone aussi pour ce match.
On avait les moins de 15. On a fait rentrer des enfants. Des enfants de 15 ans bientôt. Donc moi, je veux bien qu'on dise que Paris a, comme Monsieur Douillet le dit, avec ses millions de dollars de budget.
Centaines de millions d'euros.
Trois fois. Hein,
presque un milliard.
Trois fois le budget de Marseille. C'est pas non plus, n'exagérons rien. Et accessoirement, mais à un moment donné, même si vous avez trois fois le budget, vous avez vu le ce qu'on a fait cette année, cet été, en termes de transfert. On n'a pas mis 500 millions, comme vous disiez, avec Liverpool.
103 millions dépensés.
Bon, ça va.
Mais vous parlez de...
Donc, clairement, aujourd'hui, je ne pensais pas que vous étiez capable de poser une question comme ça. Et je pensais encore moins qu'il puisse y avoir des gens qui disent que c'est pas Paris qui fait la plus belle saison.
La question, c'est pas de savoir si Paris fait une plus belle saison ou pas. La question, c'est de savoir si laquelle réussit mieux par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Et c'est complètement différent.
Non, mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire. On va tous se mettre d'accord pour une fois pour dire qu'à la fois Paris et à la fois Marseille,
on est très content d'avoir ces deux équipes.
Et c'est pour ça que on en parle beaucoup dans les grandes gueules du sport. Parfois, on a des critiques. On reçoit, vous parlez tout le temps de Paris, vous parlez tout le temps de Marseille. Oui, mais là,
on a mêlé les deux. On parle à la fois de Paris et de Marseille.
Ah oui,
et dans un seul débat, surtout.
Comme ça, demain, on pourra parler de Paris et peut-être un petit débat sur l'OM.
On va y réfléchir. En tout cas, c'est une bonne idée que tu nous proposes là, de faire la conférence de rédaction.
Inventer un indice argent-performance. Argent-performance, l'indice, plutôt du côté de Marseille.
Mais pour les votants, sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est quand même le PSG à 58% qui réussit le mieux sa saison.
Donc on a gagné.
Mais Fred Reiss a gagné un petit point.
Merci.
Quand même. Et on te félicite pour ça. Et encore une fois, c'est peut-être ton charisme qui fait...
le mec qui pète les plombs complètement.
Ça, c'est Philippe Saint-André, maintenant qu'il est manager à Provence Rugby, dès qu'il peut placer à l'OM, dans les grandes gueules du sport, il y va. Quoi. Le mec, c'est... En fait,
il va PSG,
je lisais Marcel Pagnol depuis que j'étais gamin et tout. C'est incroyable.
Ma fille Manon des Sources.
Dans quelques instants, là, je pense que vous allez bien vous accrocher. On va parler d'Oscar Piastri, le Formule 1, un Grand Prix du Qatar ce week-end. C'est l'avant-dernier week-end de Grand Prix. Piastri va partir en pôle, tiens, de la course sprint tout à l'heure à 15h à suivre sur RMC. Piastri, Norris, Verstappen, les trois se battent pour le titre. Et pas pour le titre. Et Piastri ne veut pas.
Le titre, c'est David déjà. C'est bon.
Ne veut pas laisser peut-être McLaren donner plus de chance à Norris. On en parle dans quelques instants avec Jean-Luc Roy. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport en grande forme ce matin avec David Douillet, Fred Le Canu, Fred Weiss et Christophe Cessieux. Je vous rappelle que on aura peut-être un événement ce matin dans les grandes gueules du sport. Sébastien Ogier en lice pour un 9e sacre mondial. Pour l'instant, tout se passe bien. Il est champion du monde provisoirement. Hein. Il reste une dernière spéciale à disputer, une spéciale de 16 km sur le rallye d'Arabie Saoudite. Pour l'instant, Ogier est deuxième au général et son rival Elfyn Evans pointe en 6e position à 3 minutes du natif de Gap. On rappelle qu'il avait 3 points de retard au classement des pilotes. Là virtuellement il en aurait 7, hein, donc vraiment c'est un petit tronçon en plus la dernière spéciale. Ça sent quand même très très bon pour Sébastien Ogier pour aller décrocher un sac qui lui permettrait d'égaler Sébastien Loeb dans quelques instants. Les GG vous prédisent le week-end, mais d'abord, et là je sais que David va tout suivre ce week-end, avant-dernier week-end de Formule 1 au Qatar, le titre peut se jouer demain et Oscar Piastri n'a pas l'intention d'aider son coéquipier Lando Norris alors que ses chances de titre existent encore. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
La question a été posée à Oscar Piastri avant le week-end de Grand Prix. Est-ce qu'on vous a donné les consignes? On vous en a parlé là chez McLaren, peut-être pour vous coucher devant Norris. Nous en avons brièvement discuté, dit Piastri. Et la réponse est non. Je suis toujours à égalité de points avec Max Verstappen et j'ai encore de bonnes chances de remporter le titre si tout se passe bien. Donc oui, c'est comme ça qu'on va gérer la situation. Je n'accepterai pas de consignes. Depuis l'infraction technique de McLaren à Las Vegas le week-end dernier, le titre pilote est désormais en danger pour les papayes. Norris compte 34 points d'avance sur son coéquipier Piastri, donc à égalité avec la menace Verstappen. 58 points sont en jeu d'ici la fin de saison le week-end prochain à Abu Dhabi. McLaren avait déclaré qu'il préférait perdre plutôt que donner des consignes d'équipe il y a quelques semaines. Et là, on apprend donc... Donc en fait, ils sont allés en catimini poser la question quand même à Piastri. Dis-moi, amigo, t'en penserais quoi? Il a réalisé la pole de la course sprint devant Norris, 3e, et Verstappen, 6e, départ à 15h sur RMC. Les GG, je vous pose la question, est-ce que McLaren joue avec le feu dans son management? David Douillet, oui ou non?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non.
Fred Weiss?
Non.
Fred Le Canu?
Oui.
On vous attend au 32-16. Évidemment, la voix de la Formule 1 sur RMC nous rejoint. Bonjour Jean-Luc Roy.
Oui, salut Georges. Salut les jeunes gens et bonjour
salut
à tous.
Salut Monsieur le Roi.
Jean-Luc, il adore ça. On compte sur toi évidemment ce week-end et le week-end suivant pour nous faire vibrer. Jean-Luc, à quoi joue McLaren? J'ai envie de te dire quand on voit qu'ils sont allés voir Piastri pour lui demander s'il pouvait accepter des consignes.
Si tu me permets l'expression, c'est un peu le bal des focus, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on affiche de façade cette entente formidable entre les deux pilotes. Mais non, mais tout va bien. Ils sont jamais aussi bien entendus, nous a-t-on précisé d'ailleurs. Et puis effectivement, en catimini, on va lui poser quand même la question au cas où. Et si jamais on se trouvait en position 2, bon... Piastri ne peut pas faire d'autres réponses que celles qu'il a fait naturellement, et c'est normal qu'il joue sa carte jusqu'au bout. Et puis, il faut quand même garder une motivation absolue. Alors maintenant, il a fait une petite partie du boulot, en tout cas dans la sprint, puisque on rappelle que la dernière n'avait pas été favorable. Vous vous souvenez qu'au Brésil, il était sorti de la piste, donc il avait rien marqué. Il était troisième. Il s'était fait piéger un petit peu par de l'eau qui avait été renvoyée sur la trajectoire. Bon, c'est évident que s'il veut préserver ses chances, lui aussi. Pour le titre, avec les 24 points de retard qu'il compte sur son équipier, la meilleure solution, c'est déjà de commencer par remporter cette sprint race. Comme il est toujours très difficile de dépasser, naturellement, puisque c'est très court, cette épreuve, et que d'autre part, on pense que tout le monde va partir avec des pneumatiques médium, donc on aura une égalité de performance, et a priori, c'est bien engagé, en tout cas, pour qu'il se débrouille, pour prendre, on sait que le barème de points, c'est 8 pour le vainqueur, et 1 pour le 8e. Donc pour le moment, Lando Norris est troisième. Et Norris a dit, moi je vais essayer de rester troisième. Donc vous avez compris que dans l'état actuel des choses, voilà.
Ça peut être une vraie opportunité pour Piastri et pour grignoter.
Absolument, de reprendre 2-3 points.
Ouais. Je rappelle que seul Norris peut être sacré champion du monde ce week-end, si jamais il termine devant ses coéquipiers. David, toi tu penses que McLaren joue avec le feu?
Joue avec le feu parce que la mèche, c'est Verstappen. Voilà.
C'est une belle mèche.
C'est une grosse mèche. Je peux vous dire que celui-là, si d'une manière ou d'une autre, en faisant sa propre course, il peut mettre le bordel chez McLaren, il va le faire. Il va le faire pour en tirer profit. C'est évident. Il va tout faire. Il va jouer dans tous les secteurs. Il va utiliser tous les paramètres pour essayer de gagner. Parce que c'est un, excusez-moi, c'est pas une mauvaise expression dans mon, c'est un crevard de la victoire. Voilà, c'est comme ça. C'est
t'as, bien fait, t'as bien fait préciser quand même.
Oui.
C'était vendeur.
C'était vendeur. Ça va. Non mais voilà, c'est le truc. C'est le mec. Il est au taquet de chez taquet. Quoi qu'il en dise de quitter la F1, etc., etc. Il aime gagner. Point barre.
Tu veux dire que si tu lui en trouves la porte, c'est. Mais bien sûr, c'est Jack Nicholson dans Shining. Porte, quoi, il met la tête comme ça.
Une porte, il gagne à coup sûr. C'est même pas ça. Ouais. Tu enlèves la clé de la serrure. C'est-à-dire qu'il rentre par la serrure, tu vois. Et si tout ça est fermé, il va rentrer par la cheminée, par la fenêtre, par n'importe où. C'est comme ça. C'est
trop de métaphores. Fort là, David.
Ouais, ça va. Trop je ok. J'apprends à respirer comme toi.
Respire.
Et donc,
respire, descend. Si t'es d'accord avec moi, le grand bleu, c'est le grand bleu.
Vraiment. Et puis, moi, j'ai l'impression, au fait, au bout du bout, que c'est hypocrite de McLaren, parce que je suis d'accord avec toi. C'est le bal des faux culs. Ils ont leur titre de champion du monde des constructeurs, et le reste s'en fiche un peu, quoi. Que ce soit l'un ou l'autre, ou même qu'ils se scratchent, ils s'en battent les.
Bah, ils l'ont dit.
Les reins.
Voilà, merci. Ouais. Et voilà, c'est ça, le truc. Ouais.
Fred, le Canu?
Ouais, moi, ce que j'aimerais savoir, et justement, comme on a Jean-Luc là avec nous, c'est jusqu'où va le machiavélisme de la commande? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, regarde, on prend un exemple tout simple. Max, il est arrivé ce matin, il nous a dit, hé, hey, les gars, faites attention, ouais, le producteur. Vous êtes costaud. Essayez de pas trop parler les uns sur les autres. Ouais. Les trois Golgothes là. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, c'est ça. On s'est massacré direct. Ouais. C'est-à-dire que la contre-consigne, c'est ça que je voudrais savoir. C'est est-ce que la consigne de lui dire, va un petit peu piano, gère ton truc, à un mec que tu sais par définition que c'est un tueur à gage.
Le cerveau ne comprend pas la négation.
Non mais tu veux dire quoi, Fred? Que peut-être qu'ils font ça pour piquer Piastri qui est un peu en crise depuis quelques temps.
Tu vas pas me faire croire que quand tu connais l'athlète par cœur. Ouais. Tu sais très bien comment il va réagir. Si tu lui dis va un petit peu piano, sois sympa, laisse qu'il signe l'autre, tu sais très bien que c'est pas possible. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que c'est pas volontaire de lui dire ça justement pour le faire surréagir?
Ah, ce serait pervers.
Les judokas sont retors. Sache-le, Jean-Luc.
Non, Jean-Luc, est-ce que c'est pas complètement bête ce que je dis?
Un éclair de génie.
Non.
Si.
Écoute, moi je dis depuis pas mal de temps que leur favori c'est Norris, hein, parce qu'il est britannique, parce que c'est le petit garçon bien propre, bien poli, bien élevé, ouais. Qu'il est dans l'écurie depuis 2019, etc. Et que finalement, l'Australien qui vient d'ailleurs, là, qui est arrivé il y a 3 ans, d'ailleurs, Andrea Stella l'a dit, le team manager, pas le patron du team, il a dit, oh, il est encore un peu jeune, il commet encore quelques petites erreurs, bon, genre son tour viendra. Mm. Donc c'est vrai que ça arrangerait quand même tout le monde chez McLaren que Norris l'emporte, c'est une évidence. Mais Jean-Luc,
t'es pas d'accord qu'ils ont leur titre de constructeur, le reste ils sont.
Ah mais complètement. Ouais, ah mais là. Mais alors là, je te écoute quand tu entends ce qu'a dit exactement Brown. Hein, ouais. Il a dit d'accord. De toute façon, si on perd le titre, je serai le premier à féliciter Verstappen, à lui serrer la main. Ouais, c'est terrible pour ces deux pilotes en disant. Mais... Alors qu'il faut leur dire, mais non les gars, on est avec vous, vous allez l'emporter. Il en a rien à foutre en parlant poliment.
C'est marrant lui, parce que pour le monde de la Formule 1, le titre qui compte c'est celui des constructeurs. Et pour le grand public que nous sommes, le seul titre qui compte c'est le titre des pilotes. Sûr, ouais. Nous on s'en fiche que McLaren soit la meilleure écurie.
Bah, qui est la meilleure, façon, quelle est la meilleure écurie l'année dernière?
On n'a pas vraiment l'impression que la Formule 1 soit un sport collectif. Moi, ça ne me donne pas cette impression quand on voit ça en disant maintenant vous vous démerdez, les gars, c'est que le meilleur gagne. Adversaire d'un pilote, finalement, c'est son coéquipier. Et là, on essaye de faire un truc, un sport collectif. Ça
jamais Christophe, moi, j'ai pas.
Quand Prost fonce dans Senna,
on a aussi eu Barrichello qui freine pour laisser passer Schumacher.
Moi, j'ai pas la même lecture, mais j'ai l'impression.
Bon, c'était insupportable. C'est
insupportable, mais ça existe
quand les pilotes sont des adversaires et qu'ils se rentrent dedans.
Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ils sont sur la même ligne de conduite. C'est-à-dire que depuis le départ, ils déterminent qu'il n'y aura pas de leader. Ben c'est pas parce que ça souffle dans la nuque que Verstappen est en train d'arriver qu'il faut surréagir. J'ai l'impression que ces judokas là, dès que ça commence à devenir difficile, ils surréagissent. Ben non, ils continuent sur la même ligne de conduite. Alors oui, ils vont poser la question à Piastri parce que si par hasard il y avait un consensus par rapport à ça, ok, ce serait plus simple. Mais ils lui posent juste la question, ils lui donnent pas d'ordre impératif. Donc ils restent sur leur ligne de conduite. Pour l'instant, ils ont la possibilité de terminer 1 et 2. Alors pas en tir de constructeur parce que ça s'est fait, mais en tir de pilote, je vois pas pourquoi ils laisseraient pas les pilotes se décider sur l'arène parce que ce qui s'est passé sur le dernier Grand Prix à Las Vegas, ça n'a rien à voir avec la course. C'est un problème de voiture, c'est pas, il y a pas de problème.
McLaren déclassé pour une infraction technique.
Exactement. Donc finalement, si tu regardes le résultat, bah, t'as quand même un mec qui arrive numéro 2, Norris, et donc qui aurait pu être champion déjà, mais ou quasiment.
La question a été posée peut-être à Piastri parce que on n'est pas machiavélique peut-être.
Mais
parce que on peut s'imaginer peut-être demain sur le Grand Prix une situation où Max Verstappen est premier et on se retrouve derrière avec Piastri et Norris. Qu'est-ce qu'on dit quand on est chez McLaren? Est-ce qu'on dit à Piastri de laisser passer Norris parce qu'il a plus de chance pour le titre?
Cette année, ils se sont déjà scratchés les deux. Hein. Ils ont un accident tous les deux.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur la dernière course, il termine deuxième hein, quand même.
En fait, la question, elle est là. Est-ce que vous allez, quand vous allez être roue dans roue, ou voiture imbriquée, qui va lâcher? Est-ce que vous allez lâcher ou pas? Piastri a dit non. Non, parce que je vais me battre jusqu'au bout.
Voilà. On aura du suspense. Jusqu'au bout, les fans de Formule 1 seront ravis. Et jusqu'au bout, ils auront tenu leur ligne de conduite, McLaren.
Je suis d'accord.
Il n'y a pas de leader chez nous.
Sauf que, si McLaren n'en avait pas rien à faire du titre de pilote, un vrai taulier dirait, bon, allez, Piastri, toi, t'es pas en tête du championnat, on tire un trait, c'est toi le leader.
Mais il n'est pas complètement largué non plus.
Et l'autre t'écoute.
Voilà, le nombre de points que Verstappen.
C'est pour ça qu'il n'est pas complètement largué non plus.
Je sais.
Donc c'est un peu injuste.
On n'est pas là pour discuter si c'est injuste ou pas juste. Mais normalement, le boulot de Zak Brown est qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, ce monsieur. Il n'en prend pas d'ailleurs. Ouais, ce serait de dire ça.
Mais est-ce qu'il ne fallait pas les prendre avant et les prendre maintenant en surréaction? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
En prenant cette autorité-là et cette décision-là, ce serait le vrai patron qui tranche et qui mesure les
intérêts. Il fallait le faire avant, ça. T'as l'impression que tu réagis dans l'urgence.
Christophe, le mot de la fin.
Moi, je pense que derrière la coulisse, Zak Brown, il tire véritablement les ficelles. Parce que tu peux te débrouiller avec une stratégie, faire arrêter le mec un peu plus tôt, un peu plus tard. D'ailleurs, Piastri se plaint de ne pas avoir été favorisé en stratégie, Jean-Luc. Donc, en fait, même s'ils nous disent on les laisse faire, derrière, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, les ingénieurs McLaren. Et la soudaine perte de performance de Piastri, je pense qu'elle s'explique en grande partie par ça, non, Jean-Luc?
Jean-Luc, le mot de la fin.
Oui, je te dis, ils l'ont un peu cassé quand même. Encore une fois, pour moi, le tournant, c'est Monza. Monza, quand McLaren se rate dans les stands lors du deuxième arrêt, lors de l'arrêt de Norris, et ensuite, on demande à Piastri de rétablir et de rattraper quelque part la faute de l'équipe. Et là, lui-même, il questionne. Quand on lui dit à la radio, tu laisses passer ton équipier, il dit pardon. On lui dit oui, on s'est loupé dans les stands, donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Et là, il met quand même deux tours à s'exécuter. Hein. Et là, il a compris, surtout qu'après, il doit y avoir une explication de gravure. On lui dit, écoute, t'es bien gentil, on t'adore, t'es en tête du championnat, mais c'est pas toi qui va être champion. Moi, je le vois comme ça. Hein. Mais c'est pas officiel. C'est pas officiel.
On a hâte de voir surtout comment ça va se passer sur la course sprint à 15h tout à l'heure au Qatar. Piastri en pole, Norris est troisième et Verstappen va partir à la sixième place. 15h. Hein, ouais. Sur RMC, Jean-Luc, on va vivre ça avec toi. Il y a les qualifs également ce soir à 19h. Et on a un œil, Jean-Luc, également aussi sur le rallye d'Arabie Saoudite, puisque absolument. Sébastien Ogier, pour l'instant, peut aller chercher son 9e sacre mondial.
On croise les doigts.
Il reste la dernière spéciale pour l'instant. En fait, s'il va au bout sans problème de ses 19 km, il sera champion du monde. 11h15, la dernière spéciale, on suit ça avec toi, Jean-Luc. On revient dans un instant. Le j'y crois pas dans les grandes gueules du sport. On va parler NBA, tiens, notamment. À tout de suite sur RMC.
Pommes de terre, œufs durs.
RMC jusqu'à midi.
Crème épaisse. Rien que ça, c'est très facile à faire.
Les grandes gueules du sport.
T'as juste épluché les pommes de terre.
On vous souhaite un très 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 bon appétit. Et puis nous on vous dit à table.
Georges Quilino.
David Douillet en mode réincarnation de Jean-Pierre Coff.
Maïté a le smaqué. Bien dans la place. Même volume du garçon là.
L'amour du grand. Maïté, c'est Vanessa, c'est ma femme. Si jamais elle entend ça. Je vous assure que vous avez un contrat sur votre tête ce soir, c'est sûr.
N'hésite pas à nous redonner des bonnes petites recettes comme ça, hein, jusqu'à la fin de l'émission, évidemment. Okay. On est preneurs. Dans un instant, tiens, justement, on va ouvrir la porte du vestiaire des GG avec Fred Le Canu, Fred Weiss, David Douillet, Christophe Cessieux. Comment gérer un gabarit hors norme? Voilà, c'est un sujet qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, c'est pas un sujet qu'on peut faire tous les jours. On se dit qu'aujourd'hui, comme ça, par hasard.
Et pourquoi aujourd'hui?
C'est bizarre.
Je comprends pas. À cause de Christophe Cessieux?
Non, je sais pas. Non, on va peut-être le refaire avec Sarah Pitkowski et Jérôme Pinault la prochaine fois. On verra si ça marche.
Parce que s'il y a que nous trois dans le studio, on parle pas d'hors norme, on parle de normalité, on est d'accord.
Exactement.
C'est grâce à vous qu'il y a du hors
norme. Tout est subjectif, en fait.
Exactement.
Georges.
Non, au pays de l'hiver, c'est vrai que tout le monde était dans les normes.
Voilà. Page 31, 8000 calories, c'est hors norme. Hein.
Allez, tout de suite, on se projette les GG. Vous me dites, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
C'est la reprise de la saison de biathlon aujourd'hui à Östersund en Suède. Relais femmes à 13h30, relais hommes à 16h30. Tout ça à suivre sur RMC, évidemment. J'y crois pas, les GG. Le biathlon français va exploser ses records au JO de Milan-Cortina dans 69 jours. Christophe Cessieux.
Eh ben, je veux bien y croire, moi.
Ben, sympa, ça. Mmh. David Douillet.
Ouais, moi aussi. Je veux bien y croire.
Fred Weiss.
Ouais. J'y crois.
Fred Le Canu.
Ah, ben, j'aimerais y croire, mais les gars, exploser les records.
C'est vrai que les mots ont un sens.
Franchement, exploser les records. Ouais. Lisez la question, j'y crois pas.
Ouais.
Records, lisez la question. Cette on a médaille, pas dit battre les records, on a dit exploser.
Cette médaille dans trois en or. La respiration est très importante ce matin.
Ouais.
La voix du biathlon sur RMC, c'est Julien Richard. Salut Julien.
Carrément. Salut tout le monde.
T'es carrément la voix du biathlon.
L'exploseur de records.
Le biathlon français peut faire encore plus fort cette saison, Julien.
Bah, le biathlon français a explosé ses records en Coupe du Monde la saison dernière avec 66 podiums et 29 victoires. C'est du jamais vu. Meilleure nation homme, meilleure nation femme. Des championnats du monde record aussi, avec 13 médailles, dont 6 en or. Si on se projette sur cet hiver, chez les hommes, c'est très ouvert après la retraite de Johannes Bø, la légende norvégienne. Notamment pour un garçon qui a explosé l'an dernier. Éric Perrault, 3e du classement général, champion du monde de l'individuel, 24 ans seulement. On pense aussi à Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, l'homme des derniers Jeux de Pékin. Chez les femmes, c'est une densité jamais vu. 5 filles, 5 françaises dans le top 10 du classement général l'an dernier. Lou Jean Monod passait tout proche du gros globe de cristal, avec aussi, on va y revenir, Julia Simon, 10 fois championne du monde, Justine Brezaz-Boucher, la championne olympique, Océane Michelon, meilleure jeune l'an dernier, 5e du général, juste devant Jeanne Richard, 23 ans toutes les deux, avec une inconnue, évidemment, est-ce que l'extra sportif aura des effets collatéraux sur ce groupe, qui depuis 3 ans vit déjà, avec l'affaire de la carte bleue, sans impact, donc, sur les résultats. Cet automne, la justice a condamné Julia Simon à 3 mois de prison avec sursis. La fédération l'a suspendue 1 mois ferme. Elle n'est pas à Östersund. Elle devrait revenir pour la deuxième étape mi-décembre. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre affaire a vu le jour avec Jeanne Richard, donc, qui aurait tenté de manipuler la carabine d'Océane Michelon, sa coéquipière et rivale pour le globe de meilleure jeune en fin de saison dernière. Affaire réglée en interne.
Ça veut dire quoi, tenter de manipuler?
Bah, c'est une bonne question, mais on le sait pas.
On sait pas. Okay.
On pourrait y revenir dans le détail, mais ça peut être plein de choses. La fédération et les intéressés ont balayé l'affaire en disant que c'était donc réglé en interne. Le contexte forcément particulier. Je vous propose d'écouter Océane Michelon.
Ça fait 3 ans que l'équipe montre qu'elle est quand même globalement capable de faire de grandes choses collectivement. On est professionnels, on est adultes et on est toutes réunies derrière un drapeau commun, derrière une cause commune, derrière des objectifs communs, et c'est ce qui nous maintient notre cap et qui fait aussi notre force, je pense, ces derniers temps, c'est qu'on met à profit toute notre énergie dans le but sportif pour quoi on est là finalement.
Et elles sont là donc les Françaises pour cette saison de biathlon. Merci Julien, tu restes avec nous. Christophe, toi tu y crois donc cette équipe de France, même s'il y a eu des affaires dans le biathlon féminin notamment,
ouais,
qui nous perturbent.
Ouais, Il y a des affaires. Cette affaire, elle est ancienne, hein, entre Simon et Justine Brezaz, et ça n'a pas empêché les deux filles de performer. Hein. Elles sont adversaires quelque part. Elles arrivent tout de même à mettre leur ego de côté lorsqu'elles sont en relais. Et je pense qu'effectivement, la densité chez les filles va faire qu'on va cartonner. Et puis chez les garçons, il y en avait un qui était jusque-là un empêcheur de tirer en rond. C'était Johannes Bø. Le fait qu'il s'arrête après avoir remporté toutes les médailles et qu'on ait un petit Perrault capable de briller, je pense qu'on peut dépasser les 7 médailles de Pékin. 7 médailles, c'était déjà le record de l'équipe de France. Il y avait eu 3 titres. Je pense qu'on peut approcher les 10 médailles, même s'il y aura quand même une épreuve en moins par rapport au championnat.
C'est le relais mixte simple. Voilà.
Donc, mais sur 11 épreuves, on
il
est
adore
capable.
Le biathlon, Fred, tu vois.
Ouais. C'est mon sport.
Sur 11 épreuves, je pense qu'on peut décrocher 10 médailles.
Ah oui, t'annonces la couleur, ouais, comme ça.
C'est le médaille dans les 4, dans les 3 relais, du coup. 2 relais. Bah, relais femmes,
relais mixtes.
Donc ça fait 3 médailles. Ouais, après tu vas en chercher 7 autres.
Bon, tranquillement.
On peut s'appuyer sur les 2 derniers mondiaux, parce qu'on fait, ça a un vrai sens de dire qu'on peut convertir ça.
En vrai, c'est la même chose. En vrai, c'est un championnat du monde tous les ans, et sauf que là, c'est les Jeux Olympiques, donc il y a juste cette épreuve en moins de.
Ok, donc on peut être à 12, quoi, finalement.
Ben voilà, on est ambitieux ce matin. Relais femmes à 13h30, les hommes à 16h30 à Östersund. On suivra ça avec toi, Julien, RMC Radio officielle des JO d'hiver de Milan Cortina, retrouvé en piste pour les JO d'ailleurs tous les dimanches avec Christophe à 15h. J'y crois pas. Chaque semaine, les nouvelles stars se blessent en NBA. J'y crois pas. La NBA finira par raccourcir sa saison régulière pour préserver ses joueurs. Fred Weiss.
Oui, j'y crois.
Ah, Christophe, c'est sûr.
Ouais.
Moi, je vais écouter Fred, mais moi, j'y crois pas vraiment, non.
David Douillet, tu crois NBA qui va raccourcir le calendrier? J'y crois pas.
Ah, ils ont un sacré modèle économique à
changer.
à remettre en question. Ça va être difficile.
Fred Le Canu, j'y crois pas.
Un système américain qui préserve la santé des joueurs.
Bah, on croit pas. On va écouter Fred, pourquoi tu y crois, Fred?
J'y crois parce que simplement les stars doivent être sur le terrain et qu'on a de plus en plus de blessés. Donc oui, il y a une vraie contrainte économique parce que quand tu signes avec la télé, eux, ils ont envie d'avoir un certain nombre de matchs. Donc il va falloir trouver un accord. Mais je pense qu'ils préfèrent avoir des matchs avec leurs stars plutôt que des matchs avec des stars qui sont absentes tout le temps. Donc plutôt faire un produit premium plutôt qu'un produit en énorme quantité d'une part. Et ensuite, il y a les statistiques où il y a un vrai problème parce que toutes les statistiques, on est un sport de statistiques, le basket, toutes les statistiques ont été créées sur les saisons à 82 matchs. Il va falloir trouver une solution pour ces matchs, pour ces saisons qui seraient à 70-72 matchs.
Mais Fred, il ne pourrait pas commencer par autoriser les franchises à faire un tout petit peu tourner sans être sanctionné d'amendes incroyables? Il ne pourrait pas intégrer tous les joueurs et pas les obliger à jouer un certain nombre de matchs par an pour prétendre à...
Mais c'est ça, le problème...
Le truc, c'est qu'on les pousse,
Le problème de la NBA, c'est que d'un côté, ils veulent avoir leur star tout le temps sur le terrain et de l'autre côté, ils ne veulent pas réduire le nombre de matchs. À un moment, il va falloir trouver un consensus pour que on ait les stars sur le terrain le plus souvent possible et éviter justement ce qu'on appelle le load management, c'est-à-dire ne pas faire jouer les stars sur certains matchs parce que il y a certaines équipes qui ne s'affrontent qu'une seule fois dans la saison. Et donc forcément, les fans sont très déçus quand ils n'ont pas la chance de voir ces stars.
Toi, rapidement, juste personnellement, tu veux voir une saison régulière plus courte?
Plus courte à 72 matchs.
72
matchs,
c'est que 10 matchs,
ça changera
tout, 10 matchs en moins.
Non, mais ça te permettrait de raccourcir un petit peu. Et finalement, je pense qu'en termes de spectacle, on y gagnerait.
Et voilà pour le j'y crois pas. On est allé un petit peu vite parce qu'on est en retard. Dans quelques instants, on a un gros vestiaire qui nous attend en plus. Comment gérer un gabarit hors norme?
Tu dis ça pour nous, c'est ça? Tu dis ça pour nous, le gros vestiaire.
C'est grossophobe.
Là,
c'est tout, ça veut dire quoi?
Moi, je quitte le studio parce que moi, je me sens pas du tout gros.
Qui est gros? Remets-toi en question.
On va lui mettre un gage. Tu ne dois pas prononcer le mot gros.
Je vais pas le dire.
Tu viens de dire vestiaire.
Non, mais attendez, c'est le vestiaire. Vous ne vous sentiez pas essentialisé par l'utilisation de ce mot. C'est juste le vestiaire.
Le vestiaire des gros.
Voilà, c'est juste un vestiaire.
Non, mais
vestiaire
il n'a pas le droit de dire. Nous, on a le droit.
C'est un vestiaire qui va
prendre du temps. Il faut être gros pour dire gros, monsieur.
Tu as le droit de dire un petit peu, par contre.
Ok, j'ai peur, radio peut le faire.
Il faut être gros pour le dire.
À tout de suite.
Oula, arrêtez.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.